Donc tout est mis en œuvre pour faire perdurer la maison, donc à travers surtout des stratégies matrimoniales, et puis au détriment des cadets, et des coucous.
Je suis avec Franz-Emmanuel Petitot dans le dernier ouvrage « La famille dans les Hautes-Pyrénées, Guchen en or, 1830-1930 » est paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
Ce livre, c'est quelle histoire de quelle famille ?
Alors, c'est plutôt les familles pyrénéennes en général, sur les Pyrénées occidentales. C'est un ouvrage qui a pris pour base mon étude universitaire d'anthropologie historique sous la direction de l'anthropologue et chercheur Abel Kouvouama. Et donc j'ai travaillé sur les liens de parenté dans les Pyrénées avec, pour exemple, un exemple que je connais très bien, à savoir le village dont je suis issu, à savoir Guchen en Vallée d'Or.
Qu'est-ce que ça montre cette étude ?
L'objectif est de montrer la prégnance ou le déclin des grosses maisons, au sens gascon du terme. Comment les familles adoptent des stratégies, que ce soit matrimoniales ou autres, pour pouvoir garder leur capital, leur patrimoine foncier, préserver le nom, que ce soit au village, que ce soit aussi dans les espaces intermédiaires, à savoir les granges foraines, mais aussi en la montagne, qui utilise les cabanes. Et comment peut-on voir à travers les exemples des grosses maisons entre 1830 et 1930 à peu près, mais que ce soit aussi des familles plus modestes, des classes moyennes et aussi les familles pauvres. Donc j'ai croisé les données, que ce soit en matière de mémoire écrite, les sources écrites aux archives départementales ou les archives privées, les gens qui m'ont confié des documents, des papiers de la maison, mais aussi une enquête orale assez approfondie sur le sujet pour voir comment ces stratégies sont perçues dans la mentalité des gens, des acteurs.
Quel intérêt avaient justement ces calculs pour une famille donnée ?
Alors l'objectif était de préserver le patrimoine, le nom de la maison. Donc tout est mis en œuvre pour faire perdurer donc la maison c'est la maison au sens physique, mais c'est aussi toutes les terres, surtout les terres qui sont attachées à cette maison, et voir comment aussi, malgré les aléas dans l'histoire, l'introduction du code civil, Napoléon, qui faisait la part belle, plus d'équité pour les cadets par exemple, où l'on voit effectivement que des cadets vont mettre leur frère aîné, qui était l'héritier, primogénitour, qui était l'héritier, comment ils vont faire pour que ça soit qu'il y ait toujours un héritage qui soit toujours dévolu à l'aîné. Parfois, je tiens à dire aussi que la femme, une fille, peut hériter. Parfois préférer au garçon s'il était moins habile à faire fonctionner la maison.
Donc en fait, on estimait dans les Pyrénées qu'une demeure et les terres qu'il y avait ne pouvaient faire vivre qu'une famille.
Oui, absolument. Mais alors, évidemment, une famille dont les fils vont se marier ou les filles vont se marier, on va caser la fille, si c'est une cadette, ça dépend du statut social, tout dépend de ça aussi, j'ai remarqué. Mais souvent, par exemple, vous avez une maison A, une maison B, une maison C. Pour que la maison A puisse continuer, on va la marier avec la maison B. La génération suivante, ça sera AC, et puis après, ça sera BC. Vous voyez, il y a un système. Parfois, on voit des cousinages au niveau des alliances matrimoniales, donc au sein même des villages. Donc, tout est mis en œuvre pour faire perdurer la maison, donc à travers surtout des stratégies matrimoniales, et puis au détriment des cadets, et des coucous. On les appelait des coucous ou les tatas, donc la fille cadette, évidemment, aussi, n'avait pas le choix. Soit elle partait faire un beau mariage ailleurs, chez un héritier, ou soit elle restait à la maison, mais elle ne se mariait pas et elle devait servir un peu de servante dans la maison, tout comme le cadet. Donc ça, c'est le sort des cadets, c'est intéressant aussi. Et beaucoup de cadets émigrent, partent. Soit ils vont se marier ailleurs, soit ils partent ailleurs. On a des cas plus dans les Pyrénées occidentales où des gens vont partir en Argentine, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud pour trouver un avenir plus radieux.
Donc vous êtes un passionné de toute l'histoire locale pyrénéenne ?
Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon, c'est juste un support. Mais c'est vrai que pour moi, c'était plus aisé puisque c'est quelque chose que j'étudie depuis de nombreuses années. et pas seulement sur le plan anthropologique. C'était un aboutissement où j'ai croisé les disciplines. Il y a une approche pluridisciplinaire. Donc, je me suis intéressé à l'anthropisation du territoire. Donc, dans mon jury, j'avais, par exemple, un géographe, j'avais des ethnologues, j'avais des anthropologues, des historiens. Vous voyez, donc, et puis, avoir une formation aussi en archéologie, ça m'a beaucoup apporté dans ce travail.
Vous êtes aussi un passionné de musique, hein ?
Oui, alors ça dépend laquelle. C'est vrai que j'ai longtemps travaillé sur la musique aussi traditionnelle, mais c'est vrai que la Vallée d'Or a fait figure de terra incognita par rapport à d'autres vallées, comme la Vallée d'Ossau, par exemple, où ils ont gardé davantage leur patrimoine musical, ou en Bigorre. Mais dans la Vallée d'Or, qui est un peu un cas à part, qui est une vallée de passage, qui s'est vite modernisée, peut-être aussi, je sais pas. On assiste à une disparition quasiment totale des aires de musique. Alors néanmoins, quand j'ai commencé à enquêter un peu tard dans les années 90, j'ai trouvé quand même quelques aires de tradition locale, que ce soit en français ou en gascon. Donc j'ai réuni toutes ces bribes, j'ai aussi travaillé sur les instruments traditionnels, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une tradition riche, musicale, et c'est pour ça que j'avais fait un petit opuscule, hein, bon, je ne sais pas si on peut le trouver encore, qui s'appelait Les instruments de musique anciens en Vallée d'Or. À l'époque, ça avait été publié chez la Cour de Nîmes. Et bon, toute cette matière, je l'ai enrichie, j'ai gardé ça au frais dans ces données et j'espère l'exploiter à nouveau de manière plus ludique, peut-être plus complète.
Mais en ce qui concerne la musique, vous êtes aussi passionné d'heavy metal.
Oui, alors évidemment, là, c'est pas antinomique. Donc, je me suis surtout intéressé à l'aspect légendaire, fantasy que développaient des groupes. Donc, pour moi, il y avait un lien évident entre ma recherche, ma quête d'histoire, tout comme je l'ai fait pour les instruments de musique. J'ai longtemps travaillé sur le légendaire, les superstitions, les traditions, les histoires un peu fantastiques. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu retrouver Mula Barbe en Vallée d'Or, et pas seulement à Gavarnie, au cirque d'Estobé. On trouve beaucoup, j'ai trouvé énormément de choses en Vallée d'Or, donc j'ai publié un bouquin qui s'appelait « Contes, récits, légendes de la Vallée d'Or ». Ça m'a pris à peu près presque 10 ans à l'époque. Et donc tout ce légendaire, toute cette finalement cette fantaisie pyrénéenne, parce que finalement quand Tolkien a écrit « Le Seigneur des Anneaux », il s'est basé sur le propre folklore, entre guillemets, au sens noble du terme, sur les racines fantastiques, hein, saxonnes, etc., et pas seulement, hein, germaniques. Et bien finalement, moi je me suis intéressé aussi à un peu à cette fantaisie, et du coup j'ai dérivé évidemment avec mes goûts musicaux, qui sont pas seulement la flûte et le tambourin pyrénéen, c'est aussi la guitare électrique. Donc je me suis intéressé au heavy metal et au lien qu'il entretient avec la littérature, le cinéma, fantasy. Donc j'ai interviewé beaucoup de groupes, évidemment, que ce soit beaucoup d'Américains, d'Allemands, de Finlandais, bon, de Scandinaves, un peu partout, des Mexicains, Espagnols, bon. Et mais aussi des peintres, des gens qui ont fait les pochettes, pas seulement, mais aussi des gens qui ont travaillé pour le film Seigneur des Anneaux, comme le monsieur John Howe. Et aussi des auteurs, notamment, je ne sais pas si le Trône de Fer vous dit quelque chose, donc j'ai échangé quelques messages avec Monsieur Martin et puis d'autres auteurs, hein, américains notamment. Et donc mon ouvrage est préfacé d'ailleurs par un auteur américain qui s'appelle David C. Smith. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance, donc beaucoup d'aide grâce à Internet, vive la communication via Internet.
Votre prochain ouvrage, il aura quel thème ?
Alors je pense que ce sera peut-être plus localisé, je l'ignore. Peut-être que ce sera un travail qui date de à peu près de 1999 et qui sur lequel je continue d'avancer. Ça sera sur le Moyen-Âge, dans la Vallée d'Or, pour être original. Et vraisemblablement un certain nombre de guides patrimoniaux via la petite maison micro-édition que j'ai créée et qui s'appelle Fidelis Tempore. Donc ça sera certainement un guide, le guide de Guchen, toujours en Vallée d'Or. Voilà, puis d'autres villages viendront après.